Bon. Bienvenue dans le Paris Central Show. On va faire un petit format court aujourd'hui parce qu'il y a le débrief ce soir. On va aborder la conférence de presse d'hier soir. On va parler de Neymar et Verratti par rapport à la conférence. On va parler de Robin Mabil qui a fait des déclats sur Kylian Mbappé. On va parler de Kang In-Lee pour la minute tactique. On va parler de son rôle sur le terrain. Et on va peut-être parler un petit peu de Zaïre Emery si on a le temps. Déjà, on est avec Kevzor. Il y a Lauriel qui va nous rejoindre. Salut Kevzor.
Salut Nick, salut tout le monde.
Bon, Kevzor qui ne met pas la cam parce qu'il a une soirée agitée. Non, je rigole. bah écoute, on va commencer avec ce qui s'est passé hier à la conférence. On a encore eu tous les journalistes français qui ont posé des questions, buzz, mercato, etc. Il y a une seule question tactique qui a été posée, ça a été par un journaliste espagnol. Donc ma question, elle est simple. Tu donnes combien de temps à Luis Enrique avant qu'il pète un câble?
Je sais pas, moi, concrètement, ça me fatigue ces conférences de presse parce que, en fait, ils ont parlé de tout sauf du football. Comme tu l'as dit, il y a eu deux questions qui ont été pertinentes, et dont une, je crois, par un journaliste espagnol qui lui a parlé tactique. Et franchement, c'est fatigant parce que les mecs sont là uniquement pour gratter des papiers, vendre du journal, vendre. Avoir des titres un petit peu putaclic, comme on appelle ça, et ça me gêne parce que là, premier match de championnat, même s'il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en avant cette semaine sur Neymar, sur Verratti, sur le Mercato, etc., ils auraient quand même pu parler pour une conférence de presse d'avant-match d'un aspect tactique, de football, etc., et c'est pas le cas. Donc je pense qu'à un moment donné, Enrique va vite balayer les journalistes et les envoyer chier.
Lauriel, tu viens d'arriver, déjà salut à toi. La question que j'ai posée à Kevzor, c'était la conférence de presse d'hier, il n'y a eu que des questions buzz et tout, il y a eu peu de questions tactiques. Donc ma question, c'était dans combien de temps tu penses que Luis Enrique va péter un câble?
Salut tout le monde. Il va découvrir dans tous les cas, et puis je pense que ce n'est pas forcément une découverte pour lui. De voir que les médias vont être très très agressifs à son sujet, ou même sur l'extra-sportif plutôt que le PSG. De toute façon, avec tout ce qui est en Espagne, les chiringuitos, les trucs comme ça, ils sont bien plus sévères sur beaucoup de points. Donc, je pense pas qu'il va péter un câble, il a le caractère pour pouvoir subir. Il a aussi beaucoup d'autodérision, donc il arrive à parfois vesqui en ajoutant pas mal d'humour. Donc non, sur ça, je pense pas qu'il va péter un câble, je pense.
Ok, Kevzor, il y a un truc que Luis Enrique a dit hier, et du coup, vu la réponse aujourd'hui dans le groupe, il a dit « Neymar et Verratti, j'ai coutume de garder privé nos conversations. Je vous invite à être attentif à mes actes, parce que là, ce sont mes mots que vous entendez, mais ce sont mes décisions qui exprimeront très clairement mon avis. » Alors, ces décisions très claires, elles ont été que là, aujourd'hui, ni Neymar ni Verratti sont dans le groupe. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire pour la suite, Kevzor?
Moi, je pense que de toute façon, il ne prendra pas de joueurs qui sont en instance de départ tant que concrètement, la finalité des dossiers n'est pas aboutie dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est des joueurs qui, s'ils sont au PSG 1er septembre, seront réintégrés dans le groupe en termes de match officiel. Mais jusqu'à ce que ça ne soit pas fait dans un sens ou dans l'autre, il travaillera uniquement avec les joueurs qui sont aujourd'hui pleinement investis dans le PSG, dans ce projet de jeu, dans le projet que Luis Enrique veut mettre en place. Et je trouve ça très cohérent, très bien même en l'occurrence, parce que aujourd'hui on voit bien que certaines politiques sportives et certains choix en termes d'institutions nous permettent, nous supporters, et je pense permettent aussi à Luis Enrique d'avoir une base de travail et de travailler plus correctement et plus sereinement.
Et toi, Lauriel, t'en penses quoi? Et est-ce que peut-être c'est pas le premier coach depuis très longtemps qui a les mains libres pour faire ce genre de choses?
Je poserais une question dans l'autre sens. Est-ce que c'est peut-être pas pour la première fois que la direction laisse le coach tout simplement faire ce qu'il a le droit de faire en tant que coach, donc c'est-à-dire de s'exprimer, de pouvoir, de mettre un tel sur le banc, de ne pas le sélectionner pour tel match. Moi, je trouve que, comme dit Kev, hein, c'est très, très bien, et heureusement que Luis Enrique arrive à tout simplement taper du poing sur la table. Et moi, j'ai été agréablement surpris de voir qu'en regardant le groupe pour le match de Lorient, que Verratti, Neymar, même s'ils ont fait la préparation depuis le début, ils ont été présents, ils ont quand même joué un petit peu les matchs amicaux. Je me suis dit, bon, bah, peut-être une petite apparition pour. Bah non, là, ça montre très clairement que là, les gars, c'est une nouvelle page qui se fait. Et là, c'est moi qui décide. Le club me suit et c'est le plus important. Et franchement, ça fait du bien d'entendre ça, en tout cas.
Ok, je vois dans les commentaires quelques questions. Il y a eu la question sur Dembélé. Dembélé ne jouera pas ce soir parce que il a pas eu le temps d'être présenté à temps pour s'entraîner avec l'équipe. Peut-être qu'il sera présenté au parc. J'ai vu la question, est-ce que vous pensez que Colomboigny va venir? Bah, ça, on ne sait pas. Après, de ce que j'ai vu, c'est la priorité du club. Donc, probablement la semaine prochaine, ça va beaucoup s'agiter autour de lui. Surtout que maintenant Kane au Bayern, c'est officiel. Donc, il a plus tant de clubs que ça sur lui. Peut-être Tottenham, mais je ne pense pas qu'ils vont mettre ce que demande Francfort. Donc, c'est fort possible qu'il arrive. Moi, je pense que ça va se faire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les gars.
En vrai, le truc, c'est que moi, je vois une arrivée de Colomwani. En fait, il te faut un deuxième, potentiellement un deuxième numéro 9 ou un ailier supplémentaire, quoi qu'il arrive. Colomwani ferait du bien parce qu'il a la polyvalence de pouvoir être sur les trois positions devant. Donc, il peut à la fois jouer à gauche, à la fois jouer à droite, ou être dans l'axe qu'il fait le plus souvent avec Nantes et Francfort. Donc il y a une grosse polyvalence. Après, moi je pense que sur la fin de Mercato, comment ça va se faire, c'est que il va y avoir deux choix. C'est soit tu fais Colo Muani, soit tu fais Barcola. Si tu n'arrives pas à faire Colo, bah, tu vas aller sur Barcola. Au moins tu es sûr d'avoir un talent générationnel, comme dit Kev, depuis un bon moment. Et quoi qu'il arrive, tu es sûr de sécuriser au moins ce poste. Et après, tout va dépendre de ce que peut donner en cas de vente d'Ekitike, s'il y a une vente de Mbappé ou non aussi, parce que ça va avoir aussi un coût sur les finances du club. Donc pour moi, ça va être, je pense que ça va être un des deux. Si tu fais, ce sera pas les deux, mais si tu fais Kolo Muani, tu feras pas Barcola, et si tu fais Barcola, bah, tu feras pas Kolo.
Et toi, Kev, tu penses quoi? Déjà, je pense que tu vas dire, vaut mieux prendre Barcola vu la
Non.
propagande que tu fais tous les jours.
Là, je suis en propagande sur Barcola, mais moi je pense qu'on peut et qu'on va faire les deux. Et là, c'est pas pour faire l'insider, etc. Mais je sais que Barcola, de source sûre, a vraiment envie de venir au PSG. J'ai vu des messages Insta, etc. Donc il a vraiment envie de venir au PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, Kolo Muani veut venir aussi au PSG. Et le club veut les deux joueurs. En fait, même si Kolo Muani avait mis quand même, je pense, au début du mercato, une préférence sur d'autres grands clubs qui s'étaient approchés et vice-versa, Paris était aussi sur d'autres joueurs un peu plus huppés que Kolo. Je pense qu'aujourd'hui, avec le départ d'Ekitike, il faut en fait deux joueurs sur chaque poste. Deux attaquants, deux ailiers droits, deux ailiers gauche. Et l'arrivée de Barcola et de Kolo Muani permettra en fait d'avoir deux joueurs à chaque poste avec ce départ de Ekitike en fonction de comment va se dérouler le feuilleton Mbappé. Donc moi, ça me permettrait aussi d'avoir des profils qui sont différents par rapport à ce que Luis Enrique veut mettre en place. C'est-à-dire que on aurait deux joueurs avec Dembélé et Barcola qui sont assez insouciants avec le ballon, qui peuvent percuter, qui peuvent faire marquer, qui peuvent marquer. Colo et Ramos sont deux attaquants de pointe qui peuvent jouer différemment les uns des autres. Et tu as aussi Asensio et Kanginli qui peuvent varier en fait leur football. Asensio, c'est un joueur qui rentre beaucoup à l'intérieur. Qui a une capacité de frapper de loin et de marquer des buts de loin. Kanguili est un joueur qui peut jouer et relayeur et ailier. Donc, c'est un joueur qui peut permettre aussi de libérer des espaces pour tes latéraux qui sont relativement offensifs. Donc voilà. Du coup, moi, je le dis, je pense sincèrement et j'espère de tout cœur que le club va faire signer ces deux joueurs. Et encore une fois, je suis sur un hashtag Barcola au PSG. Je veux absolument Barcola au PSG. Je kiffe ce joueur. C'est un talent générationnel. Et dans un an, il vaudra 80 ou 100 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le joueur veut venir. Lyon est dans l'obligation de vendre. Ne passons pas à côté de cette petite pépite.
Ok, Gato nous a rejoint. Gato, avant de te donner la parole sur le prochain sujet, vous avez fait les 700 likes sur le dernier live. Donc, comme promis, il y a le bon d'achat à gagner. On va faire le tirage au sort en live et on va voir qui va gagner. Parce que c'est pas moi qui le fait, le tirage. Ah,
Et pas mon blaze, hein.
Dette. Non, mais tu peux pas jouer, toi. C'est
Oh
interdit.
mince, merde.
Dette Wheeler. Ouais, c'est un ancien de la chaîne. Donc, félicitations à toi. Et on profite pour dire, si vous faites encore 700 likes sur ce live, bah, du coup, il y aura un autre bon d'achat à gagner pour le Nike Store. Donc, il faudra juste mettre en commentaire votre prono du match de ce soir. Voilà. Vous avez jusqu'à dimanche soir. Bon, gâteau. Il y a Romain Mabil qui a parlé récemment. Il a dit, concernant Mbappé, on va attendre encore un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position. Le jeu médiatique influence également pas mal de choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu penses qu'il y a un traitement qui est différent selon les joueurs et qu'il est peut-être un peu plus clément avec Mbappé qu'il a été avec d'autres?
Déjà, monsieur, bonjour. J'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien. Oui, il y a un traitement qui est différent par rapport aux joueurs. Après, moi, je suis pas un pro Mbappé, je suis pas un anti Mbappé, mais on voit qu'il y a un traitement différent par rapport aux joueurs, parce que Neymar avait aussi eu des pépins avec les supporters, il avait eu des différends, et il n'y a pas eu ce genre de clémence en temporisant. Mais comme tu as le passif Neymar, ce qui ne fait pas une jurisprudence pour essayer aussi de pas taper sur les joueurs. Moi, franchement, Mbappé, s'il avait été sifflé, enfin s'il est sifflé ce soir, je suis pas étonné. Je suis pas étonné parce qu'il y a une partie des supporters qui en ont marre de son cas, qui ne comprennent pas la situation où il manque quand même pas mal de. La situation est opaque, on ne sait pas ce qui se passe, et ce qui reste, et ce qui reste pas, ce qui va être vendu. Il y a aussi des gens qui en ont marre quand même de son comportement. Donc oui, je pense que le CUP, notamment Romain Mabi, est clément sur ce cas-là, parce qu'il y a déjà eu un passif et il n'a pas eu le même comportement avec les joueurs qui ont eu des comportements mauvais avec le club.
Toi, Lauriel?
En fait, c'est une position qui est un peu délicate. Et moi, en étant très clairement, je suis assez ouvert sur ça et ça me permet aussi de clarifier les choses, mais je fais partie de l'association du CUP. C'est assez compliqué parce que tu peux entendre en fait que tu peux défendre le joueur parce qu'il a fait aussi partie de certaines choses au sein de l'association, notamment, donc dernièrement, avec ce qui s'était passé pour l'anniversaire de la casse au Steam, du groupe de supporters auquel il y avait eu pendant le match PSG-Lyon. Donc, qu'il puisse ne pas y avoir de prise de position avant que le dossier soit fait, je peux comprendre. Après, je m'attendais, moi, personnellement, de la part de Romain, quand même qu'on se mette d'abord derrière l'institution du club puisque c'est le club qui prime et après derrière pour pouvoir exprimer son avis et dire voilà que bah, certes tu bottes en touche, tu dis que on attend la fin du dossier pour voir comment ça peut se finaliser. Moi je pense que Mbappé, quoi qu'il arrive, c'est un dossier qui est très très compliqué et après il y aura tellement de moments où on pourra en reparler, mais avec la sortie en plus qu'il vient de faire là sur Instagram en accueillant Ousmane Dembélé, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais il ne faut vraiment pas enlever le fait qu'il peut prolonger potentiellement à la fin du mercato ou peut-être au mois de septembre, en tout cas qu'il puisse rester au PSG encore un an, parce que c'est vraiment pas quelque chose à mettre ça de côté. Après derrière il faut voir, hein, c'est un dossier qui est tellement compliqué, ça peut se faire dans les derniers jours, dans les dernières heures, dans les dernières minutes du mercato avec peut-être une offre potentielle du Real ou pas. Donc c'est tellement compliqué que c'est assez vaste, en fait.
Et pour finir, Kevzor, sur le sujet, je te laisse conclure.
Ouais, ben après, je pense que Lauriel est plus près de tout ça avec ce qu'il a dit que nous-mêmes. Donc je ne sais pas trop, honnêtement, je trouve que la prise de parole n'est pas forcément excellente. Je pense que la com n'est pas terrible, mais après, encore une fois, le dossier est très complexe, les deux parties ont leur tort, il y a un jeu de communication qui est mis en place, là, clairement, des deux côtés, pour faire passer l'autre pour le méchant. Donc, en fait, c'est très très complexe comme dossier. Là, je vois que, tu vois, quand Kylian Mbappé met son bienvenu Dembélé sur Instagram, il y a un jeu de com qui est mis de partout, peu importe les réseaux sociaux, donc il faut faire très attention à tout ça. C'est un dossier très épineux. C'est un dossier très coûteux aussi, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit du côté du joueur ou du côté du PSG. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc, moi, sur ce point-là, je préfère mettre un joker.
Ok, les gars, je profite pour vous demander un service. J'ai regardé les stats de la chaîne, il y a 30 000 personnes qui nous suivent régulièrement, 30 000 spectateurs réguliers. Et il n'y a que 8000 abonnés. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un tiers des gens qui regardent régulièrement qui sont abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. On a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Aussi, je voulais vous dire qu'il y a une liste pour rejoindre une ligue MPG qu'on va faire cette saison. Donc, vous pourrez la suivre sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Paris Central. On fera tout ce qui est un peu plus jeu. Donc, on va jouer à MPG là-bas, etc. On va aborder maintenant la minute tactique du podcast. Il y a deux sujets tactiques qu'on voulait aborder. Je sais que le Paris Saint-Germain recherche un 8 qui peut être décisif, entre guillemets, dans les derniers mètres. La question, c'est est-ce qu'on ne l'a pas déjà, puisque je vois que beaucoup de gens mettent Kang In-Li en ailier, mais il peut également jouer 8. Kevzor, je te pose la question, est-ce que tu ne penses pas que c'est un 8 qui peut être plutôt intéressant pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il a un gros volume de jeu, il a une bonne finition, et de ce que j'ai vu, il récupère des ballons.
Honnêtement, c'est très difficile de le juger pour moi parce que c'est un joueur qui jouait l'année dernière à Majorque, hein, et c'est une équipe que je n'ai pas trop regardé jouer. Maintenant, c'est un profil de jeu par rapport à ce que moi j'ai pu lire et observer un petit peu depuis qu'il a signé au PSG, qui est quand même assez polyvalent. C'est un joueur qui percute beaucoup, mais qui a aussi une aisance technique en fait. Je pense que c'est un profil un petit peu, comment dirais-je, à la Neymar en fait. C'est un joueur qui peut toute proportion gardée bien sûr, hein. C'est un joueur qui peut jouer long de ligne, qui peut percuter d'un contre un, c'est un joueur qui peut jouer au cœur du jeu, rentrer pour combiner, c'est un joueur qui peut marquer, qui peut faire marquer. Donc encore une fois, toute proportion gardée, parce que voilà, personne où c'est, ça risque d'être très difficile de retrouver un joueur du talent de Neymar. Mais concrètement, c'est un joueur qui a un profil très très vaste, très très vaste, qui peut jouer sur l'aile. Je pense qu'il sera utilisé sur l'aile, mais qui permettra à des joueurs comme Hakimi ou Nuno Mendes, qui sont quand même des latéraux très 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 offensifs et qui aiment avoir de l'espace devant eux, en rentrant à l'intérieur, qui leur permettra quand même de permettre de prendre la profondeur et d'avoir plus d'espace aussi pour dédoubler.
Gâteau.
Bah, Lee Kangin, moi je préférais le voir en tant qu'ailier avec de la percussion. Ou même s'il a les capacités de jouer 8, on peut avoir un espèce de meneur excentré. J'aime bien sa percussion. Sur les matchs de préparation, on a vu qu'il a des facilités, parce que à Mayer, j'ai eu des petites vidéos, mais j'ai pas vu de match en entier. Et honnêtement, en 8, je pense pas spécialement que ce soit la bonne idée et qu'il puisse prendre de la vitesse sur le côté gauche, côté droit, et puis soit centrer, soit aller percuter, tenter des petits dribbles. Parce qu'au milieu de terrain, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, Vitinha pourrait s'affirmer. Il a vécu une saison un peu en demi-teinte la saison passée, mais j'ai confiance en lui. Et puis, tu as comme Fabien Ruiz aussi, tu as le mec de contrôle qui manie bien le ballon. Lui, c'est plus un gars qui va avec de la vitesse et en percussion. Donc, je vois plus en tant qu'ailier.
Lauriel, pour conclure.
Ouais, pareil que Gâteau, je le vois vraiment dans un domaine de percussion, un peu moins dans l'animation de jeu en tant que numéro 10. Sur les matchs amicaux, on a pu voir, il a une grosse faculté à venir défendre sur un côté, notamment quand il était associé avec Hakimi, ou encore après derrière, à pouvoir prendre le jeu à son compte pour pouvoir provoquer sur son côté droit. Il avait aussi une habitude, et on l'a ressenti, à prendre l'axe assez facilement, à rentrer avec son pied gauche. Mais je le vois vraiment plus dans de la percussion, dans du pur 1 contre 1, dans quelque chose qui va dynamiter sur les côtés, et on en aura besoin, puisque si tu joues avec un jeu à la Luis Enrique, avec une grosse possession de balle, et que tu vas avoir en face de toi une équipe qui soit va être acculée derrière, ou sinon va essayer de te prendre haut, il va falloir donner beaucoup de dynamisme sur les côtés et l'animer de cette manière-là pour qu'on puisse prendre l'ascendant rapidement.
Ok, bah écoutez les gars, si je vous ai posé cette question, c'est parce que il y aura peut-être l'arrivée de Kolo Muani. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Kylian Mbappé. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Neymar. On a déjà Dembélé à droite. On a Asensio qui peut jouer à droite. Si je vous ai posé cette question, c'est peut-être parce que il y aura plus de chances d'avoir du temps de jeu là-bas. Et la deuxième question tactique de l'émission, c'est justement, si on prend Kolo Muani, où est-ce qu'il va jouer du coup avec toute cette concurrence? Parce que là, s'il y a Dembélé et peut-être que Kylian Mbappé, il reste, on a Gonçalo Ramos devant. Où est-ce qu'il va jouer? Vas-y, Kevzor, je t'écoute.
Moi, je pense concrètement qu'en fonction des performances de chacun, ça permettra déjà de tirer le meilleur de chacun. Aujourd'hui, on aura une vraie concurrence devant et pas forcément une concurrence de stars comme on l'avait l'année dernière. On peut me dire ce qu'on veut. L'année dernière, Neymar, Mbappé, Messi étant présents sur la feuille de match, c'est des joueurs qui sont obligatoirement titulaires et qui ne sortent pas en cours de match. Donc là, chaque joueur va devoir tirer son épingle du jeu et va devoir aussi être performant. Je pense qu'un Colomouani est un joueur assez polyvalent qui peut jouer sur les trois postes sur le front de l'attaque. Donc on va voir en fait, parce que s'il arrive, tout comme Ramos, ça fait qu'une semaine qu'il est là, même pas encore, il est arrivé à l'entraînement que mardi, on va voir comment le coach va vouloir les utiliser. Et moi, encore une fois, je me mettrai derrière le coach. Ce que je veux, c'est que les mecs intègrent son projet de jeu, peu importe la façon dont ils les utilisent, et qu'ils les utilisent au mieux possible. Et qu'il en tire le meilleur de chacun. Voilà. Mais je pense qu'il peut jouer partout, honnêtement. Il ne faut pas oublier aussi qu'un Ousmane Dembélé, depuis son arrivée au Barça, a joué que 37% des matchs, toutes compétitions confondues. Donc, même si on est très content de son arrivée, enfin, du moins pour ma part, je suis très très content et très hypé, en espérant qu'il ne se blesse pas, il nous faudra quand même des joueurs capables d'être performants sur la durée et ne pas être blessés. C'est important dans les moments clés.
Gâteau.
Bah écoute, même s'il y a la concurrence, moi je pars du principe qu'avec Luis Enrique, tout le monde peut être sur le banc, tout le monde peut être titulaire. Pourquoi Ousmane Dembélé, c'est forcément titulaire? Voilà, peut-être que le gars, il arrive, Lee Kang-in aussi, il est là, il va peut-être essayer de faire des performances. Peut-être que Colomouani va être axé plus sur le côté droit. On sait qu'il a déjà occupé ce poste-là, notamment en équipe de France. Il peut aider là-dessus. À gauche, pour le moment, j'espère que le souhait de Kaiser va se réaliser. Barcola, peut-être qu'il arrive. Moi, je pars du principe, en tout cas, mon souhait, c'est que Mbappé ne soit pas là cette saison. Et que, j'apprécie, vu la tournure, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais les Qataris, vu comment ils sont en froid avec lui, j'ai pas l'impression qu'il va jouer que le Paris Saint-Germain cette saison. Donc, partons du principe que pour moi, il n'est pas dans le groupe. Et voilà. Donc, il y a de la place. Sa place à faire parce qu'il y a de la concurrence. Et comme l'a dit Kevzor, ça va tirer le meilleur de chaque joueur et à chaque poste. Et ce sera tout bien pour le collectif.
L'Oréal, pour conclure.
Je rejoins ce que les deux disent. Potentiellement, si Colo arrive, ce serait. Il peut, comme j'ai dit avant, il peut jouer sur les trois postes devant. Moi, je le verrais bien dans une petite alternance avec Gonzalo Ramos devant. Après, tout va dépendre exactement contre qui tu vas jouer, quelle animation tu vas pouvoir mettre en place avec ce type de joueur-là, puisque ce que Ramos peut faire devant, Colomouani ne peut pas forcément le faire, ou en tout cas, c'est même pour inversement. Donc, tout va dépendre de l'animation. Et très clairement, moi, comme dit Kevzor, moi, je me mettrais derrière le coach. Il aura la possibilité de faire sa place. Là, le but aussi de la direction du Paris Saint-Germain, c'est aussi de créer un gros effectif et d'avoir des titulaires et notamment des personnes sur le banc qui montent en puissance et qui auront la possibilité d'être à la fois aussi très performants quand ils vont pouvoir jouer. Donc du coup, ce qui fait que sur les dernières années, on était vraiment en manque. Quand tu sentais que, par exemple, Mbappé devait sortir, quand tu devais le remplacer, c'était un peu plus compliqué. Alors que là, tu tires un peu moins la gueule. Tu vois, tu te dis, si Dembélé joue pas, tu as possibilité d'alterner avec un Marco Asensio. Si potentiellement, de l'autre côté, ça ne marche pas avec Lee Kang-in ou quoi, tu peux faire rentrer un Colomouani ou peut-être un Barcola si jamais on arrive à faire un des deux. Devant, la même chose, tu peux alterner. Si tu peux te garder potentiellement un Ekitike aussi. Donc, à voir exactement comment ça peut se passer. Mais tu as tellement... la possibilité de pouvoir switcher, de pouvoir mélanger, que c'est assez riche et c'est bien, mais c'est pas mal.
Ok, écoutez, là, comme j'ai dit, on va faire un live un peu plus court parce que ce soir, il y a le débrief qui va faire une demi-heure aussi, donc on partage en deux, 30 minutes midi, 30 minutes ce soir. J'ai gardé des questions que vous avez posées le long du live, donc je vais les poser à nos intervenants. Il y a quelqu'un qui a demandé Vitinha, Emery ou Garté. Est-ce qu'on n'a peut-être pas le milieu le plus équilibré depuis 5-6 ans? Peu importe celui qui veut répondre.
Dans les profils, il y a Vitinha, il manie bien le ballon. Zaïre Emery aussi. Après, Zaïre Emery, est-ce qu'il sera en 6 ou en 8? Parce que Je vois plus 8 et Ugarte en 6. Par contre, je vois mal Ugarte en 8 aussi, tu vois. C'est le problème. Zamrery est beaucoup plus apte à aller chercher de l'offensive, casser des lignes et gagner des mètres que Ugarte sur ce qu'il a montré en tout cas au PSG. Est-ce que c'est équilibré? Oui. Est-ce que c'est le plus équilibré? On a vu quand même des trucs des fois avec Idrissa Gueye aussi, avec Herrera. C'est quand même équilibré, hein. C'était pas feu-feu, mais voilà.
J'ai pas la compo de ce soir, hein. Désolé, je pense que personne là.
Moi, je pense que de toute façon, la compo, c'est celle qui est sortie dans les médias et tous les médias s'affirment. Et pour une fois, même tous les médias sont plutôt unanimes sur un point. Il y a de fortes chances que ce soit de toute façon Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery au milieu, avec Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Marquinhos et Skriniar dans l'axe. Et je pense que les trois de devant seront Ramos, Kangin et Asensio, concrètement.
Ok, une autre question qui est passée. Sans Neymar, Mbappé et Messi, qu'est-ce que vous attendez de notre nouvelle attaque? Parce que je pense que les trois, ils doivent peser. Je dis un chiffre au pif, hein, parce que vous aimez bien attaquer sur les stats. Je n'ai pas les stats en tête, mais on part de 70 buts, je pense, à peu près. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle attaque? Premier qui parle, premier servi.
Ben, déjà, en fait, il va falloir se rendre à l'évidence. Personne n'est Mbappé, enfin, personne ne peut devenir Mbappé, personne ne sera Neymar, personne ne sera Messi. Aujourd'hui, on aura besoin de plus de joueurs qui statent. On aura besoin de plus de joueurs qui permettent en fait de marquer et de faire marquer. Et c'est hyper important parce que, comme tu l'as dit, en fait, les stats, moi non plus, je les ai pas en tête. Mais l'année dernière, le PSG, c'est 89 buts. Et je suis convaincu que les trois de devant en ont marqué plus de 70. Donc c'est important que tout le monde se mette au diapason et que concrètement le projet de jeu que Luis Enrique veut mettre en place permettra à tout le monde de s'épanouir et de faire en sorte qu'on marque beaucoup de buts. Mais j'attends aussi qu'un gars comme Ramos, qu'on a payé quand même 80 millions, marque une vingtaine de buts cette saison. J'attends qu'un Ousmane Dembélé soit quand même vachement décisif, en dehors des stats, permette de déséquilibrer n'importe quelle défense, que le bloc soit haut, bas ou médian. J'attends aussi beaucoup d'un Kangin Lee parce que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité aujourd'hui. Et j'espère qu'Asensio aussi nous permettra de débloquer certaines situations avec des frappes dont il a l'habitude en Espagne parce que c'est quand même un bon tireur de 20-25 mètres. Donc on verra bien. Je pense qu'on peut atteindre pas mal de buts cette saison et plus équilibrer en fait. Ses buts et ses stats sur le front de l'attaque avec tous les joueurs.
Quelqu'un d'autre veut intervenir?
Moi, pour compléter un petit peu, puisque c'est très bien dit, je pense qu'il va leur falloir beaucoup de temps. Il faudra pas oublier quelque chose, c'est que ça va être la première saison pour beaucoup d'entre eux. Gonzalo Ramos, il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation aussi. J'ai pas envie d'être trop optimiste, même si j'espère que ça va se faire très très rapidement, mais qu'il puisse trouver d'abord du rythme, que Kangin Lee puisse aussi tout simplement prendre son rythme sur le côté, ou en tout cas face aux adversaires qu'il va avoir, puisque l'adversité qu'il va avoir, ce ne sera pas la même qu'il aura en Liga, que ce soit physique, technique. On sait très bien que voilà, à Icardi, ça a pris un petit peu de temps, même si ça avait très bien fonctionné, et puis après, au fur et à mesure du temps, voilà, donc tout peut se faire d'un côté comme de l'autre. Ils peuvent démarrer très très fort et puis après commencer à s'épuiser vers la fin ou même inversement. Donc moi ce que j'attendrais c'est surtout de la complémentarité et de la polyvalence du fait que voilà si tu en enlèves un l'autre qui va pouvoir s'installer dans le jeu pourra être aussi efficace pourra apporter autant et donc c'est surtout ça qui va faire un peu la donne de cette saison-là je pense.
Ok, je vais vous poser la dernière question qu'on nous a posée avant de clôturer ce live. Juste avant, je me permets de dire que vous êtes 360, il n'y a que 91 likes, donc j'aimerais bien finir ce live avec au moins 100 likes. Je sais que c'est chiant, que je vous demande ça tout le temps, mais si on ne le fait pas, ça avance pas. Et comme vous pouvez le constater, on essaie de développer le projet. Là, vous avez vu, il y a des nouveaux intervenants, on va essayer d'aller un peu sur Twitch, etc. Donc, on ne vous demande pas ça pour vous faire chier, c'est juste pour continuer à faire grandir le truc. Gâteau, il va nous faire un autre concept demain si tout va bien. Donc, on va essayer de développer la chaîne. La dernière question, c'est est-ce que le PSG ne joue pas un coup de poker en ramenant les joueurs de l'équipe de France pour garder Kylian? Et on a un autre auditeur qui nous dit on aura l'attaque de l'équipe de France, impossible qu'il parte. Qui veut la prendre, celle-là?
Ouais, j'ai vu ça sur Twitter, les gens pensaient et disaient d'ailleurs que ce que Mbappé a demandé lors du mercato estival de 2022 est en train de se passer en 2023. Peut-être qu'ils font ça pour le prolonger, je ne sais pas, parce qu'en réalité, on a quand même l'impression qu'ils prennent de bonnes décisions et pour les mauvaises raisons. Plutôt par orgueil qu'ils veulent faire partir Verratti, Neymar, qu'ils ont fait partir Messi, etc. parce qu'ils avaient essayé de faire partir, de prolonger Messi, rappelez-vous. Prolonger Mbappé à tout prix, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que maintenant on est post-Coupe du Monde. Et là, je pense que ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Je pense que là, avec l'arrivée de Luis Enrique, c'est plutôt qu'ils essaient vraiment de créer un collectif. Et Mbappé, ils essaient de s'en séparer. Maintenant, ça me trotte dans la tête, mais je préfère ne pas y penser.
Et enchaîne.
Ouais, bah après, c'est moi je trouve que c'est compliqué. Je ne sais pas, ce dossier me paraît très complexe. Franchement, je vois pas comment il est possible que Mbappé prolonge, vu la cassure qu'il y a entre les deux clans, entre les deux parties. Les deux ont leur tort, mais je les vois mal s'asseoir autour d'une table et finalement se serrer la main et mettre un coup de stylo sur un papier malgré des millions d'euros. Honnêtement, je sais pas. Puis en plus, il y a quand même pas mal de rumeurs comme quoi Randal Kolo Muani viendrait aussi au PSG et aimerait le départ de Mbappé. Donc, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont pas vraies? Parce que il est vrai que quand tu as un Mbappé dans l'équipe, faut aussi dire que le constat est que la lumière est prise par ce joueur-là. Donc, à voir concrètement. Après, c'est vrai que ce qui avait été demandé par Mbappé l'été dernier est en train de se produire cette année. Mais je pense que que la cassure entre les deux clans, et le PSG et le clan Mbappé, est bien plus profonde, qu'on ne le pense.
Lauriette, t'as quelque chose à dire ou on conclut le live?
Non, non, c'est très bien dit, c'est très bien été répondu. C'est un dossier qui est très compliqué et très dur, donc à voir. Et comme gâteau, je préfère pas forcément y penser, même si je me le mets quand même un petit peu dans la tête en me disant que. Bizarrement, tout arrive à point nommé pour lui et dans sa réflexion à lui, je pense qu'il peut se dire oui, pourquoi pas encore une dernière fois, mais bon, après derrière, on verra, l'équipe est bien et l'effectif est bien comme celui-ci, il est en train de se construire et il faut suivre le club, c'est le plus important.
Ok, bah peu importe, ça manquait de rythme aujourd'hui, désolé, la semaine prochaine, je reviens plus hype, t'inquiète. Il y a qui encore qui m'a dit je like avec Paresse parce qu'on bave un peu trop sur Verratti sur cette chaîne. Franchement, les gars, je vous l'ai déjà dit un million de fois, j'aime beaucoup Verratti. Genre, ça n'a rien à voir avec ne pas aimer le joueur, je l'aime beaucoup. C'était quasiment mon joueur préféré pendant les 10 dernières années. Juste, je me dis qu'il a un décalage avec le football actuel, c'est tout, son jeu. Ça va trop vite maintenant, ça va trop vite. C'est juste ça. Mais c'est un joueur, il est magnifique, il m'a fait kiffer au parc, il n'y a rien. Bah écoutez, n'oubliez pas qu'il y a le live débrief ce soir à 23h05. Donc rendez-vous ce soir, vous serez avec Tonton et Kevzor normalement. Donc voilà. On se dit à samedi prochain pour un live toujours. Et n'oubliez pas que ici c'est pareil, les gars. Les likez, même si vous êtes sur les plateformes Spotify, tout ça, abonnez-vous, ça nous aide. Ciao!